Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau. On commence direct sans tarder parce qu'on a beaucoup à dire. On va appeler Monsieur Rifreb pour parler avec lui de son dernier ouvrage et il vous offre ce premier morceau, Les Noisettes, The Noisettes, Don't Give Up.
Sometimes the one to cut you down, gotta scratch that itch, cause the time is now. I tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system wrong, gotta tear it down. Let it fall to the seabed like a rusty crown. Through the stars, love the moonbeams glare. Shackles on your feet, gotta disappear. What if I tried to tell you to do it more? Can't you see, baby, life's knocking right at your door.
Voilà, et bien voilà, nous sommes en léger différé, mais surtout en compagnie de Monsieur Rifreb. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Ah, c'est pas la première fois qu'on vous a à l'antenne. On vous a même eu déjà par téléphone. Vous êtes un des premiers avec qui on a discuté par téléphone, non pas de visu, mais ça s'était bien passé la dernière fois, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette fois-ci.
Non, c'est un plaisir de recommencer.
Ah, et ben vous êtes bien gentil en tout cas de passer votre après-midi avec nous. Alors, ça date un peu, mais on a mis un peu de temps. Et puis, vous-même, vous avez aussi des obligations professionnelles. Mais lorsqu'on vous a rencontré au mois de novembre, fin octobre, début novembre, eh bien, n'était pas encore dans les bacs, mais sortait tout juste des presses à imprimer. Votre dernier artbook intitulé Rockbook, et on avait eu la chance ainsi de pouvoir le regarder un petit peu parce que vous l'aviez reçu, votre éditeur était là, il vous en avait confié un exemplaire.
Le festival de Saint-Malo, il y en avait deux exemplaires seulement.
Oh la vache. Alors depuis, il y en a d'autres.
Pour préciser, c'est les éditions, c'est la collection Métamorphose chez l'éditeur Oxymore.
Alors on va essayer de vous resituer un petit peu, hein, Monsieur Rifreb, pour les goujates et les goujats qui ne vous connaîtraient pas.
Nous, ça existe ça ?
Ouais, ça existe. Hein, nous on vous connaît depuis très très longtemps. En tout cas, moi je vous connais depuis 1986 avec le Bal de la Sueur.
Voilà, oui.
Hein, en collaboration. Comment c'est vieux.
Ah oui, les goujats, c'est des trop jeunes.
Et puis
de tout jeune goujat.
Voilà, et puis
quand on est goujat, on est goujat.
Moi, je vous avais découvert avec les aventures de Sergueï.
C'est ça.
On peut plus trop dire ça en ce moment. Sergueï, c'est pas bien vu. On va vous accuser d'être avec les Russes.
Bon, vu que c'était un anti-héros, c'est pas si grave.
Oui, c'est vrai. Et puis après, on vous a suivi avec les aventures de Myrtille Fauvette, de Glam et Comète. Et puis, on vous avait fait revenir sur le plateau de Quai des Bulles, je me rappelle, avec à propos de À bord de l'étoile matutine, à travers cette trilogie maritime, À bord de l'étoile matutine, Le loup des mers et Homme à la mer, des œuvres de Marc Orland, Jack London et d'auteurs classiques que vous avez eu grand plaisir à illustrer.
Et adapté, ouais.
Voilà. Mais parallèlement à ça, vous avez également illustré des romans, fait dans la BD jeunesse, fait dans le livre jeunesse, collaboré à des collectifs d'humour. Enfin bref, vous avez une bibliographie bien remplie, mais c'est aussi parce que vous n'êtes pas non plus à perdre de l'année, monsieur Riffrebs.
Pour manger dans ce métier, il faut bosser, hein. Donc, j'ai pas lâché le morceau pendant une quarantaine d'années, effectivement. Oui.
Alors là, c'est vrai que votre artbook, là, pour nous, c'est du pain béni parce que, disons-le carrément, ça parle de musique et il y a des beaux dessins. Donc, on était fait pour se rencontrer, je crois. Vraiment.
Oui, c'est pour ça que je suis venu vous traquer à Saint-Malo. Je me suis dit, c'est un objet pour eux, ça.
Exactement. Alors, on peut peut-être remonter aux origines de ce projet, parce qu'en fait, c'est comment le décrire ? C'est un recueil de tout un tas de travaux que vous avez fait pendant une longue période. Je ne sais pas sur combien d'années, finalement.
En fait, c'est quasi sur toute ma carrière officielle, en tout cas. C'est-à-dire que c'est ma première rétrospective de tout un tas d'illustrations, pochettes de disques, décorations, illustrations de livres, autour du rock'n'roll d'une manière large, quoi.
Parce que le rock'n'roll, et on le découvre, et vous le dites hein, dans votre édito, dans votre introduction, vous le dites, le rock'n'roll et la BD, quelque part, faisaient partie du même mouvement qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, quelque part.
Absolument, c'est la même énergie préadolescente, adolescente, et qui a duré jusqu'encore à l'âge que j'ai maintenant.
D'ailleurs, vous n'avez pas changé de blouson. Certaines mauvaises langues disent « oui, il a des sous maintenant, mais il ne change pas son blouson
». J'étais obligé un petit peu, je suis Jésus sur ma moto, mais bon.
Et effectivement, moi je me rappelle de cette glorieuse époque, il y avait aussi, c'était l'époque de Métal Hurlant, où il y avait effectivement un lien qui semblait naturel et évident entre la BD et le rock'n'roll. Même si aujourd'hui, je trouve que ce lien s'est un peu distendu.
Oui, et encore qu'on peut se satisfaire que la BD existe toujours et que le rock'n'roll n'est pas tout à fait mort.
C'est vrai, mais...
C'est vrai que c'est générationnel, qu'on a beaucoup de dessinateurs comme moi, comme Mezzo et Cromwell et plein d'autres, ont grandi en parallèle de l'évolution du rock'n'roll et de la bande dessinée. Sachant que les deux étaient plutôt proscrits quand on était jeune, c'était mal vu des parents, que ce soit la BD ou que ce soit le rock'n'roll avec tous ses chevelus et tout ça. C'est le même combat un peu.
Et donc, dans cet ouvrage-là, alors j'aimerais bien quand même que vous nous parliez un petit peu de la maison d'édition, parce qu'on ne vous connaissait pas, avec cette maison d'édition. C'est tout nouveau, cette maison d'édition-là.
C'est tout nouveau avec des anciens, c'est-à-dire que c'est l'ancien patron de Soleil qui remonte une maison d'édition associée à Gallimard, qui s'appelle donc Oxymore. Et j'ai suivi ma directrice de collection, notamment toutes celles des adaptations littéraires dont on parlait tout à l'heure, qui a quitté des cours pour monter Oxymore avec son ancien patron. Et j'ai suivi parce que c'est avec elle que j'ai fait mes plus beaux livres, il n'y a aucune raison que je change.
D'accord. L'amitié, c'est important aussi dans le rock'n'roll comme dans la BD.
Ah oui.
Exactement. Mais mon Roger, moi je le respecte, hein, mais il m'a un peu coupé la route. Moi je serais bien revenu quand même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous êtes dit putain, j'ai tous ces matériaux là. Comment est venue l'idée de cet artbook en fait, quoi ?
C'est que ce matériel-là n'existe pas en librairie. C'était une part de ma vie un peu cachée par rapport à mes lecteurs habituels. Donc pour moi, c'était important de mettre à jour, de mettre en librairie tout ce travail qui était plutôt dans les affiches de concerts, sur des bars, et pas du tout en librairie. Et comme je pense que j'ai passé beaucoup de temps et peu d'argent, comme il y en a peu dans le rock'n'roll... à faire tout ça, je voulais que c'est une vraie existence et que les gens connaissent cette facette de moi qui était vue uniquement à travers des expositions ou des parties d'expositions.
Mais vous aviez eu la précaution de tout garder, par contre.
Oh bah oui, parce que c'est pas du matériel que je vends et donc je suis resté propriétaire de mes originaux et de mes scans et tout ça. Donc, c'est tout le matériel, ouais, oui.
Alors, on va creuser un peu plus l'organisation, le choix, ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un hommage au rock, voire au blues. Et puis aussi, c'est tout un répertoire de votre style, en fait, de l'évolution de votre style. C'est aussi un témoignage de toutes les étapes du dessin de Monsieur Riffraie. Ça, c'est intéressant aussi.
Oui, parce que c'est l'intérêt d'une rétrospective, c'est qu'on voit l'évolution d'un artiste, d'un auteur, et puis ça compile les différentes techniques que j'ai eues à travers le temps. Alors, tout ça est un peu mélangé parce que c'est rechapitré pour classer un petit peu tout ce bazar, mais malgré tout, on peut y trouver effectivement des travaux à l'aquarelle, aux angles de Chine, sur l'ordinateur, enfin, des gouaches acryliques, il y a de tout, quoi.
Il y a de tout, c'est éclectique, mais il y a quand même une espèce de filiation, je dirais, que je vois à travers cette affiche où on voit tout en haut les Pussy Riot, les MC5 au centre, et on devine les Clash tout en bas. Pour vous, c'est ça la Sainte Trinité, Clash, MC5 et Pussy Riot?
Alors l'histoire de cette image, parce qu'en fait chaque image a une histoire, on pourra pas tout raconter sinon on fait une semaine avec vous au téléphone.
Ah bah si vous êtes assis, on peut le faire. Hein.
Non mais il a du travail chez lui.
C'est une commande de Philippe Manœuvre pour Rock and Folk qui voulait, c'est à l'époque où les Pussy Riot faisaient scandale en Russie, et qui m'a commandé une illustration retraçant trois grands groupes politiques. Et donc cette image est représentative de ces groupes politiques-là, mais je suis pas que sur des groupes politiques, quoi, mais effectivement, c'était l'intérêt de cette image-là, c'est de mettre trois étapes dans le temps de groupes qui veulent bouger les choses dans la société.
Oui, c'est pas forcément politique, mais on sent quand même que vous avez une appétence, on va dire, pour l'esprit de révolte, parce que le Kick Out the Jam, Motherfuckers, on le retrouve quand même assez souvent, finalement, perlé dans tout l'artbook. Il est vraiment là, hein.
Oui, c'est sans doute un de mes groupes préférés, donc je les lâche pas.
Ouais, alors c'est marrant parce que vous nous avez fait une playlist. Moi j'avais fait une petite playlist de mon côté en préparation de tout ça, et j'avais mis le fameux Kick Out deuxième, mais vous avez fait une autre playlist. Et alors le premier morceau qui apparaît, je suis très agréablement surpris, c'est les Beatles, Slow Down.
Oui, c'est fondateur pour moi parce que j'ai commencé par ça.
Ah bah écoutez, c'est super. On va s'écouter ça.
Pas mal de gens me disent « Ah, mais les Beatles, c'est vous sûr? C'est pas le vilain petit canard de votre livre ?» Je dis « Mais attendez, c'est des rockers, quoi. Faut pas oublier leur début. » Et je pense qu'avec Slowdown, on a l'exacte démonstration de leur goût pour le rock'n'roll avec McCartney au chant.
Ouais, et puis il y a qu'à regarder leurs reprises. Long Talk Sally, de Little Richard, enfin, par exemple. Et puis Hambourg, quoi. Faut penser à Hambourg. Et puis ça reste un super groupe.
Bien sûr.
Ouais. J'ai torturé mon pauvre ami Roger.
Non, ça va, les Beatles, j'aime bien.
J'en passais un par émission.
Même si je dois avouer que, comment dirais-je, je préfère McCartney à John Lennon, mais bon, allez savoir.
Je suis plus McCartney aussi. Enfin bref.
Oui, écoutez, torturer avec les Beatles, ça reste une douceur. Hein.
Baby, won't you walk with me? Come on, pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance, slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving. Ow! If you want our love to last. I used to walk you home, baby, after school. Carry your books home, too. But now you got a boyfriend down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me a little loving, give me a little loving.
with the one I love to last.
Après cet excellent morceau des Beatles,
ça fait plaisir
de Monsieur Riffleb. Alors il y a une double page qui m'a beaucoup parlé, qui semble résumer un petit peu votre point de vue, puisqu'on parlait de la différence de goût, etc. On voit trois guitaristes sur une double page, un guitariste de rock'n'roll, un que l'on soupçonne un Beatles, être un Beatles, parce qu'avec cette espèce de guitare électrique violon là,
c'est la manière dont il la tient,
et la manière dont il la tient,
c'est très McCartney.
Et à la fin, un guitariste de punk. Et je trouve ça très beau, cette image. Elle serait bien si on pouvait la... On découpera pas mon livre, en tout cas. Mais l'afficher dans les locaux de notre radio, parce que je crois que à travers ces trois guitaristes-là, on a trois aspects principaux du rock, quoi, quelque part.
Oui, en gros, je sais pas, 55, 65 et 75.
C'est ça.
Et la chose, c'est que c'est une couverture d'un livre que j'ai fait qui s'appelait Le Petit Rocker Illustré.
Oui, aux éditions La Sirène, je crois, c'est ça.
Oui, édition La Sirène, c'est un abécédaire avec toutes les galères du rock, quoi. Et donc, cette image était générique de différentes époques. Et ça me plaisait d'avoir une espèce de Stray Cats, une espèce de Kings ou je sais pas quoi, enfin, années 60, et puis une espèce de Sid Vicious, oui, enfin, de punk, ensemble, quoi. Voilà, pour moi, ça correspond aussi à mon goût, sauf qu'il y manque la soul, le rhythm and blues, peut-être un peu de blues aussi, voilà, mais bon. Pour le rock'n'roll, c'est tout y est pour moi.
Il y a quelques dessins autour des Noirs américains, des musiciens Noirs américains, et notamment de leurs difficultés qui sont très chouettes dans votre album. Je me souviens,
Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai dû donc glisser un dans ma playlist aussi, d'ailleurs.
Qu'est-ce que je veux dire ?
Little Richard.
Ouais. Vous aviez tous vos matériaux bruts, en physique, pas en numérique, globalement ?
Comment dire ?
Un mix.
C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est numérique, c'est que les couleurs, finalement. Donc, j'ai tout le matériel en noir et blanc pour ce qui est numérique.
Et comment vous avez fait votre tri ? Parce que j'imagine que vous en avez encore plus.
Bah, j'ai pris le meilleur.
C'est très subjectif, ça. Mais vous n'êtes pas dit « Ah, putain, j'ai rien sur ce groupe-là, ça serait... j'aimerais bien... »
Non, parce que ce livre-là n'a pas été fait avec mes goûts. Uniquement, je ne me suis jamais assis en disant « Ah, j'adore ce groupe, je vais faire un dessin. »
D'accord.
Il y en a deux comme ça dans le livre, mais le reste, c'est parce qu'on me les a commandés, en fait.
Ouais, j'aimerais aussi... Alors, dans l'ouvrage, est interrompu par cinq chapitres. Track 1, track 2, etc. Et à chaque fois, le premier, c'est vous, c'est normal. Mais ensuite, on trouve toute une liste de personnes. Il y en a une que je connaissais, on va y revenir tout à l'heure, mais qui ont joué un grand rôle dans votre, comment on va dire, dans le fait que vous ayez illustré pas mal le rock'n'roll. Au niveau du track 2, c'est Stéphane Saunier, créateur de Sonic Records, directeur de Roadrunners Records, programmateur de Nulle Part Ailleurs, directeur des programmes musicaux de Canal+. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait la rencontre avec ce monsieur ?
Et à 18 ans, dans un concert au Havre, parce que ce garçon est havrais, même génération que moi, et c'était un des plus énervés de l'époque. J'ai rencontré, il était rodiste pour Little Bob, et il cherchait la castagne à tout le monde, un peu, non j'exagère, mais Et ce type-là était, un fils de maçon. Et c'est un personnage rare qu'on rencontre dans une vie avec une énergie de fou. Il vit à 200%. Il doit dormir 3 heures par nuit. Il est copain avec Iggy Pop. Et puis, en même temps, il a démarré tout en bas, quoi. Et c'est un espèce de phénomène humain et c'est un copain, voilà. Donc, je voulais qu'il y soit pour témoigner notamment de notre jeunesse sur la scène havraise.
C'est très beau ça, ouais. c'est toutes ces références effectivement à l'adolescence, parce que forcément, enfin nous on s'y est replongé aussi, on a repensé aux nôtres, et ça c'est très chouette, Le Havre, Little Bob, etc.
C'est-à-dire que Le Havre était un petit poil en avance sur la scène française à cette époque-là, avec des groupes d'un très bon niveau, le lien avec l'Angleterre était très fort, l'existence des premiers labels, les boutiques de disques... Crazy Little Thing qui a engrainé toute la jeunesse des lycéens havrais à l'époque avec Philippe Garnier notamment au début. Alors Philippe Garnier, pas celui qu'on connaît maintenant, hein, mais un spécialiste du cinéma qui vit maintenant en Californie, quoi. Voilà.
Alors, le travail, quand vous avez comment travaillé pour de nombreuses associations, etc., vous avez réalisé de nombreux affiches, ça n'a rien à voir, par contre, avec le travail que vous accomplissez d'habitude lorsque vous réalisez une bande dessinée, ou une adaptation d'ouvrage. Et j'ai dessous les yeux la 8e Fira del Disque, qui est magnifique, une affiche magnifique où on voit une belle dame avec, une robe saupoudrée de vinyle, qu'on dirait une andalouse, vous savez, une espèce de gitane.
Oui. En fait, c'est via le festival du disque et de bande dessinée de Perpignan. J'ai dû faire 9 fois l'affiche pour eux. Alors, elles sont pas dedans parce que j'avais plutôt mis Myrtille Fauvette, justement, personnage de BD à l'époque. Bon, enfin, il reste le Mozart qui était fait pour eux, un pirate aussi à la guitare qui était fait pour Perpignan. Et donc, le responsable de ce festival m'avait commandé une affiche pour le festival du disque de Barcelone. Et d'où le personnage espagnol, cette femme, tous ces disques, et puis on voit à l'horizontale le lieu du festival qui devait être la gare française de Barcelone. Voilà.
Et c'est magnifique, cette tache rouge là de la robe de cette dame fait penser énormément à Forrest, au travail de Monsieur Forrest. J'espère que je vous vexe pas.
Ah non, mais on peut trouver dans ce livre plein d'influences, parce que comme je l'ai fait vraiment en toute liberté, sans les contraintes qu'on a sur une bande dessinée, je cherchais à chaque fois un visuel différent, une idée différente, un graphisme différent. Enfin, c'est vraiment un livre de mes libertés, de mes récréations aussi.
Parce que là, je vois un autre exemple avec une autre affiche, Dancing Cows Academy. Alors, j'ai mon ami qui adore prononcer le mot cows en anglais. Je sais pas pourquoi, il adore cows.
C'est une private joke, idiote.
C'est au dernier quai des Bulles, lorsque Erwan m'a dit t'inquiète, on va faire une interview en anglais, je sais dire cows.
Non, on a rencontré effectivement un auteur anglais et à un moment, je voulais lui parler d'un truc qui était chaotique. Chaos, et puis il a compris une vache, et voilà, c'était un grand moment.
Et là, justement, sur cette affiche, on voit des flying cows, avec un lettrage et une forme qui n'est pas, moi, sans me rappeler, perso, le travail de monsieur de Bub Deum, on dirait presque.
Ah, pourquoi pas, écoutez, je viens de re-ranger ma bibliothèque et je suis tombé sur le rayon Bub Deum. Alors, je n'ai pas pensé à lui du tout. Il se trouve que cette affiche-là, c'est le groupe de mon fils cadet qui faisait du hardcore à l'époque.
D'accord.
Voilà, donc c'était le nom de son groupe et j'ai cherché une image qui puisse être toujours avec de la dérision. Hein. Mon livre, c'est comme le rock'n'roll, c'est colère et pas sérieux en même temps, quoi. Voilà, donc après, il y a effectivement une typo un peu à la russe, quoi.
Aussi, ouais, ouais.
Voilà. Vous y revenez.
Avec des avec des canons, etc. Et puis les pauvres vaches ukrainiennes qui essayent de bombarder le sol russe.
Ouais, elle a au moins 15 ans, cette image, mais bon.
Mais elle est superbe. Et toujours pareil, dans les travaux différents que vous avez menés, il y a quand même quelque chose, par contre, qu'on retrouve très, très souvent, et que vous avez... C'est l'espèce de format pulps. Vous savez, quand vous reprenez les vieux magazines d'horreur, terreur, thrill, et vous en avez commis plein, Dollhouse. Dr. Rock and the Machine, The Nightmare of the 70s Dream. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce goût-là pour les pulps?
Alors, décrit vraiment le mariage de la bande dessinée et du rock'n'roll. Alors pour le coup,
pour le coup, ouais.
À la bande dessinée des années 50 américaine. Et donc j'ai repris un peu la maquette de DC Comics de l'époque. Avec le bandeau supérieur, et ça me, et après j'ai joué avec ça pour composer des images. Alors en fait, il y a une première série qui est introduite par ce satané hip-hop, où j'ai fait Stooge, MC5, etc. Puis après, j'ai pris des libertés sur la maquette. Et puis, il y a aussi la série dont je venais de parler, c'est pour le groupe suédois. Redites-moi le nom, les
Dollhouse. Dollhouse, ouais.
Voilà. Alors, pour les Dollhouse, en fait, c'est parce qu'il a vu les images précédentes que j'avais faites, notamment du MC5 et des Stooges, dont il est fan comme moi, et il m'a dit, j'aimerais bien que tu me fasses des pochettes de 45 tours pour mon groupe, avec ce même type de design.
D'accord.
Voilà. Et il m'a commandé 4 pochettes de 45 tours, puis après l'album. Et donc, il m'a dit, ce serait une petite histoire en 4 volets sur 4 45 tours. Voilà, donc c'est je peux rentrer dans le détail de cette histoire-là. Le détail le plus intéressant, c'est que ils sont rentrés en studio pour enregistrer pour mes 45 tours, et ils se sont fâchés directement. Alors, j'ai
cause à effet,
pochettes, mais ils n'en ont sorti qu'un.
Ah oh, merde.
Donc, ce que vous voyez là, c'est des inédits, quoi, en dehors du premier.
Alors, ils ont sorti ce...
pour rien, parce qu'en plus, ils m'ont payé en me donnant 7,45 tours d'autres groupes.
Oh mon Dieu.
Misère, quoi,
mais c'est ça, le rock'n'roll, voilà.
Mais voilà, le livre est rempli de merde, comme de galères, comme ça. C'est rock'n'roll, c'est tout.
Mais de toute façon, écoutez, j'ai bien aimé aussi, enfin, l'introduction que vous avez fait, la préface, là, où, qui est quand même un superbe plaidoyer au do-it-yourself. Et je trouve que c'est tout à fait l'esprit, en fait, de ce bouquin.
Oui, puis c'est fait, oui, c'est ça. Puis pour moi, c'est fait ta vie toi-même, quoi. Donc,
ouais.
C'est pour ça que je signe d'un nom bizarre. Et enfin, voilà, ma vie, c'était le dessin avec l'énergie de rock'n'roll derrière.
Ouais, ouais. Interlude musical. Ah bah, Little Richards, j'en ai parlé tout à l'heure. Lands of Thousand Dance. Roger nous traduira le titre juste après.
Il n'y a pas de vache.
Elle est, vous avez vu comment elle est. Hein, elle est mauvaise.
Interlude musical.
1, 2, 3 1, 2, 3 y'all. We'll be right back.
Alors mon bon Roger, Land of Thousand Dance, ça veut dire quoi?
Attendez, je suis en train de, j'ai plus le texte devant les yeux.
Google Trad.
Pays, c'est non, mais c'est le pays des 100 danses.
Oui. Ouais.
Mille danses.
C'était presque ça. C'est pas mal.
Le pays des 1000 danses.
Alors pourquoi Little Richard?
C'est un fondateur, c'est un fêlé, et une énergie de fou, une voix merveilleuse, et il a inspiré tout un tas de groupes qui ont essayé d'imiter ça, quoi. Et donc, en fait, c'est un morceau qui est de Wilson Pickett, mais la version de Little Richard vaut le coup aussi, et puis, comme je l'ai fait en dessin, je l'ai fait un beau portrait.
Oui.
Je me suis dit que ça irait très bien avec l'interview.
Impeccable. Donc on a évoqué tous ces matériaux que vous avez donc sélectionnés.
Un truc qui revient souvent, c'est les travaux que vous avez réalisés pour l'Hermès. C'est une boîte du Havre.
C'était un café, mais un truc de 12 mètres carrés, quoi.
Ah ouais.
Mais et donc ce Saïd, le brave Saïd qui a arrêté maintenant, mais qui a tenu ce bar-là pendant plus de 20 ans, faisait venir des groupes en tournée, mais des groupes américains, anglais, français, enfin bon. Et il venait se produire là, pour 5 euros, t'assister à un concert où les mecs ils jouent devant toi, comme dans un local de répète, quoi.
Voilà, excellent.
Et c'était génialissime, quoi. Une belle ambiance. Il y avait plus de gens dehors que dedans, vu la dimension du bistrot.
Bah oui, j'imagine, ouais.
Et puis, c'est dans un quartier un peu misère du Havre. Et donc, il y avait tout un tas de gueules cassées. C'était super.
Ah oui, j'imagine. Il manquait des dents, etc., etc.
Oui, c'est ça, voilà. Puis des pochetrons et tout, mais des anciens dockers. Mais c'était une belle ambiance. Et puis, on avait pour 5 euros des groupes internationaux, parfois. Enfin, vraiment, quoi.
Bah ouais, c'est classe.
Bah ouais. Il y avait également le cabaret électrique. Vous avez beaucoup travaillé pour le cabaret électrique.
Alors ça, c'était une vraie salle de concert, plus ou moins liée à la municipalité du Havre. Ça n'existe plus, malheureusement, mais il s'est passé des beaux moments aussi, là. Mais ça, pour plusieurs... Ça, évidemment, étant à vrai, même si j'ai habité Paris et Bruxelles, j'ai quand même beaucoup produit pour ma ville et pour soutenir la scène locale, quoi.
Ouais, bah oui.
Alors, quand je dis la scène, c'est les groupes ou les lieux, quoi. Et évidemment, j'ai été, étant un peu connu sur la plage, j'ai été sollicité pour faire plein de choses. Et c'est un vrai bonheur de les voir réunis ici. C'était une vraie fête au Havre. On a fait une expo à la sortie du livre.
Ah, excellent. Cool.
Et c'est à l'endroit où il y a, tu n'as pas parlé encore des grandes doubles pages.
J'allais y venir avec la double page des Ramones.
Tu sais, voilà, mais c'est là qu'a eu lieu l'expo et la soirée, c'était une vraie feria là-dedans.
Et je voulais, avant d'attaquer ces fameuses doubles pages, j'avais envie de parler du Trax 3, du troisième chapitre, avec comment cette intervention de monsieur Iggy Pop himself. C'est quand même pas rien quand même d'avoir un petit papier d'Iggy Pop dans son livre, et d'autant qu'il fait référence, et j'avais même pas remarqué, pourtant j'ai épluché votre ouvrage, je n'avais même pas remarqué que le Mozart en blouson de cuir, c'était vous.
Alors, non, mais moi non plus.
En tout cas, c'est ce qu'il prétend, Iggy Pop.
Oui, voilà, on ne corrige pas Iggy Pop, alors quand il écrit une connerie, on assume.
D'accord. Ce n'est pas vous, mais je trouvais que du coup, il y avait, malgré la perruque, je dis après, avec une perruque, il y a un air de famille.
Le truc, c'est que je ne l'ai pas rencontré de visu. Enfin, je l'ai vu plein de fois en concert, je l'ai porté, même quand il se jetait dans la foule. J'ai vu les fesses de devant et les fesses de derrière. Je connais bien Iggy, mais lui, il ne le sait pas. Donc, quand je l'ai eu son contact, l'échange était par mail, il était aux États-Unis et moi en France. Et donc, je lui ai envoyé une première série d'images que je voulais qu'il introduise, c'est-à-dire les images du chapitre qui suit. Et puis il a rien écrit, donc je l'ai re-rappelé et je lui ai dit, voilà, j'ai besoin de ce texte maintenant, parce qu'en fait, c'est sorti dans un coffret de sérigraphie, là, tout ce dossier-là. Et donc il y a une quinzaine d'années, et donc j'ai dit, j'ai besoin du texte. Et il me dit, mais renvoie-moi des images. Et du coup, je lui en ai envoyé d'autres. Et dans les autres, il y avait le Mozart. D'accord. Et puis il est parti en pensant que c'était Robespierre.
Les Français coupent des têtes.
c'était mon portrait à moi en Robespierre. Alors du coup, j'ai refait un dessin exprès plus Robespierre, mais voilà, j'ai jamais pensé à en représenter moi.
Ouais, effectivement. Donc, en fait, l'album est, l'artbook est organisé une espèce de, une prise de parole, et puis derrière, donc des vos travaux. Comment vous avez justement structuré l'ensemble ? Parce que ça aurait pu être un truc bêtement chronologique, etc., etc. Mais vous avez pas voulu ça, en fait.
Non, parce que ça aurait été un vrai bordel. Alors, tu voulais dire, pour le rock'n'roll, ça pouvait être bien, mais ça aurait quand même été... Enfin, je pense que même chapitré, ça reste un gentil chaos. Donc, il me semblait pour... moi, mon introduction, je l'ai fait... J'ai mis des images qui sont plus des illustrations, qui ont été un peu dispersées dans le temps. Pour Stéphane Saunier, sur le premier chapitre, lui, c'était ce qui concerne plus la scène havraise, vu ce qu'il raconte, ce que je lui ai demandé de dire. Iggy Pop, c'était une évidence qu'il l'ouvre, le texte qu'il avait écrit pour ces images-là, sorti d'abord en coffret de sérigraphie pour une poignée de collectionneurs, mais là, disponible pour tout le monde. Je ne sais plus en 5 qui serait...
En 5, on doit avoir... non, Little Bob en 4.
Alors, Little Bob, alors, bah oui, c'est pour tout ce qui est pochette de disque, évidemment. J'ai été croiser mon bon vieux Bob, notre héros.
Oui, on sent que vous avez de l'affection pour ce monsieur.
Ouais, on reviendra d'ailleurs sur Little Bob.
Il n'y a pas, donc je ne vais pas m'étaler sur Bob. Il n'y a pas la place, de toute
façon. Quelle drôle de phrase.
Vous dites ça parce qu'il est confortable. Et n'empêche que, bah, tant pis, on va, puisqu'on parle de Little Bob,
oui, parlons de Little Bob, c'est quand même une référence.
Moi, ça m'a fait plaisir parce que, alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, Little Bob, c'est le premier concert de rock'n'roll que j'ai jamais vu de ma vie à Saint-Brieuc.
Dans la égalité.
Mais en fait, vous savez, messieurs, que vous êtes dit la même chose à Quai des Bulles à Saint-Malo, c'est et c'est vrai. Là que j'ai réalisé que j'étais plus jeune que vous.
Ah oui, oui, vous êtes un peu plus jeune que Monsieur Riffreb et moi. Riffreb
et c'est, non mais vraiment.
Et pour moi, Little Bob, c'est la première fois que j'ai découvert effectivement l'ambiance d'un concert de rock and roll. D'ailleurs, c'était le premier, un des tout premiers concerts de rock qu'il y ait pu avoir à Saint-Brieuc dans la fin des années 70.
Ben oui, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Avant, j'écoutais de rock sur disque, et c'était quelque chose qui a une certaine distance, quoi. Et puis, je devais avoir 16-17 ans, j'entendais du bruit d'un concert dans la rue, à travers la fenêtre de ma chambre, donc j'ai fugué, je suis allé voir, et c'était Little Bob, et je suis dit, ah d'accord, le rock'n'roll, en fait, c'est live, c'est comme ça, quoi. Et j'en ai pris plein la tronche, et son groupe, à l'époque, était formidable. La story.
Ouais, Little Bob Story, on disait d'ailleurs.
Et ça jouait, ils revenaient d'Angleterre où ils avaient tourné avec Dr. Feelgood et tout, c'était terrible. Et donc, je me suis dit, maintenant, je vois tous les concerts. pas forcément de Bob, mais de rock'n'roll, parce que c'est là que la musique se révèle vraiment, quoi.
Et vous l'avez interviewé, du coup, pour cet ouvrage-là, vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé, et l'interview est dans l'ouvrage.
Et j'ai joué au journaliste pour une rare fois de ma vie.
Mais oui, ça fait drôle d'ailleurs de vous voir dans ce rôle-là. D'habitude, c'est nous qui vous embêtons. Et là, c'est là qui êtes vous, qui êtes devant Monsieur le Bob, presque intimidé, cric-crac, c'est rigolo.
Ben oui, il a 83 ans, il a une carrière.
Quand même.
Hein, il démarre en 63, il se pointe au golfe de Rouault,
ouais.
À l'époque du jeune Johnny et tout ça, quoi. Et puis il dit, on a été super nuls. Et après il répète pendant 10 ans, et quand il explose, enfin quand il commence à ressortir, là c'est devenu une espèce de MC5 à la française, sauf qu'il chantait en anglais, quoi. Et c'était tout à fait autre chose, quoi. Il a fini les bananes et les vieilles bagnoles des années 50. Et puis, j'ai pris une claque ce jour-là, donc je vais le voir chez lui, effectivement. Et on revenait, une semaine avant, on était à un concert de Imperial Crowns, un groupe, il connaissait tout le monde, c'était son anniversaire, ils ont passé le concert à tous les deux morceaux à dire « Bon anniversaire, Bob ». C'était des Américains de Californie, des super musiciens. Et c'était un super beau concert. Et là, je me dis, mais voilà, il me manque un texte, et je vais demander à l'aïeul, quoi, je vais demander à Bob. Vu que je parle de lui dans mon texte, je me suis dit, il va en être. Voilà. Et il était aussi à la soirée d'inauguration de mon expo, où il est venu chanter avec un petit jeune du Elvis, et c'était trop bien d'avoir un gamin de 20 ans et le Bob ensemble. faire hors bricotel et je peux dire que ça en avait les poils, quoi.
Ah ouais, excellent.
Et lui, il était tout content de voir la relève parce que le petit gamin, il est bon, quoi. Et les mimiques à la Elvis, c'était trop drôle.
C'est classe.
Ouais, Little Bob. Comment
Donc oui, j'étais chez lui dans son antre. Alors évidemment, je me suis cogné un peu partout parce que je suis grand. Mais il m'a filé plein de disques, je lui ai filé des bouquins. Enfin voilà, on s'aime.
Mais il est du Havre aussi, Little Bob, c'est ça,
je crois. Ouais.
Alors il est originaire, c'est un immigré italien, mais il a vers 15 ans, il arrive au Havre. Et il va à l'école et puis très vite il va à l'usine et puis très vite avec les copains de l'usine il fait un groupe, voilà.
Alors, parmi les personnages qu'on retrouve dans votre ouvrage, il y a également Jim Dixon. Pareil, je ne connaissais pas pour le chapitre 5. Jim Dixon, vous pouvez nous en toucher deux mots?
Jim Dixon, c'est aussi encore un coup de Stéphane Saunier. C'est-à-dire, quand il monte un label au Havre, en fait, il est en lien avec la scène australienne. Il y a un label australien qui s'appelle Les Citadelles. Et donc, il commence à sortir du disque de groupe australien et il est fait venir en France. Et moi, je fais la pochette, mais alors elle n'est pas dedans parce qu'il n'y a pas de dessin, mais de deuxième album des Barracudas, donc groupe anglais, mais il se trouve que le bassiste est australien et c'est Jim Dixon.
D'accord.
Donc, ils viennent jouer au Havre et puis on commence à rencontrer Jim Dixon. Puis après, il revient parce qu'il joue avec les New Christ. Et puis après, il revient parce qu'il joue avec Radio Birdman. Enfin bon. Et lui, il commence à parler, pas le français, mais le havrais. Donc, il y avait toutes les expressions locales et les gros mots qui vont avec. Et c'est devenu un grand copain. Et c'est un grand fan, comme moi, des années 60. Aussi bien en rock 60s qu'en soul. Et donc on s'échange des disques, on s'en offre, on s'envoie nos découvertes. Et j'ai voulu qu'il soit de la partie. Et donc ce garçon-là, il est la Hall of Fame du rock australien avec Radio Birdman. Et le premier ministre australien, ce qui est l'équivalent du chef d'État là-bas, est un fan de bar de Radio Birdman. Donc j'ai des photos du ministre australien avec le t-shirt Radio Birdman et tout ça.
Comme quoi, le rock'n'roll. Ça ouvre toutes les portes, mine de rien.
Absolument. Et donc c'est un super mec et c'est un super bassiste, quoi.
On l'a évoqué, le Iggy, et puis on va évoquer les frangins qui étaient avec lui, la bande d'affreux des Stooges. Vous avez choisi en troisième morceau de nous faire écouter 1969.
Baby,
sommes toujours en compagnie de Monsieur Riffreble pour la sortie. Alors, il est sorti en novembre, hein, c'est ça, un rockbook.
Oui, début novembre.
Voilà, début novembre. Donc, collection Métamorphose. Et vous m'avez dit, c'est la maison d'édition.
Oxymore.
Il faut que je le redonne parce que sinon, on voulait passer un petit peu aux doubles pages. Aux doubles pages. Moi, la première double page qui m'a super plu, c'est parce que aussi je suis un peu limité. C'est alors, bon, j'aime bien le surf.
Gabba Gabba.
Et les affreux Ramones en double page. Je dis, ouais, trop
pas
bien.
Pas les affreux, les vénérables.
Formidable, ils sont tous morts.
Alors, il y a un excellent musée, un tout petit musée des Ramones à Berlin.
Il est fermé.
Il n'existe plus.
Non, depuis le Covid, j'ai essayé d'aller le revoir et il est fermé.
Oh merde.
Ah, bon.
Le Covid a emporté les Ramones.
Quelques années et c'est devenu une espèce de boutique musée.
Ouais, mais à New York, je sais plus où, il y a quand même un petit mural qui évoque Joey.
C'est vrai. Ouais. Parce que là, il y avait les baskets de Joey et un de ses vieux frocs.
Est-ce que tu es sûr que c'était...
Écoutez, je l'ai goûté. J'ai goûté, j'ai regardé...
Les converses pourries, j'en ai aussi. Hein.
Alors, les Ramones, c'est quoi les Ramones pour vous? Alors, il n'y a pas que les Ramones, parce que dans cette double page...
C'est toute la scène new-yorkaise.
Ouais, on voit comment les Talking Heads, on voit Richard L., Patti Smith, Television, New York Dolls, Dead Boys... C'est un moment important pour vous?
Oui, effectivement, parce que ça, j'ai pas vu tous ces groupes-là, hein, j'ai vu les Ramones plusieurs fois.
C'est déjà bien.
Et c'est tout, New York Dolls par morceau, quand ils étaient dans d'autres groupes, mais Blondie, j'ai pas vu, Dead Boys, malheureusement, leur carrière était courte, mais bon, pareil, il a joué dans d'autres groupes, le chanteur, enfin bon. Mais, comment dire, ce chapitre-là, c'est des dessins que vous voyez, ils sont faits au format d'une porte.
Ouais.
D'accord.
20 cm de large, avec plus de 2 mètres de haut, quoi. Donc, c'est en fait pour décorer une école de musique. C'est le centre d'expression musicale du Havre et c'est que des anciens rockers, des potes qui sont professeurs de piano, de guitare, de batterie, etc. Et ils ont fondé d'abord c'était des locaux de répète parce qu'ils n'avaient pas d'endroit pour répéter, ils avaient marre des granges à la campagne et puis des caves en ville et ça a démarré par des locaux de répète puis c'est devenu une école. Et ça s'est développé maintenant dans une friche, et donc il y a 20 salles de classe, 6 locaux de répétition, et ils m'ont demandé d'illustrer chaque porte. Et donc chaque illustration correspond à un morceau de l'histoire de la musique. Donc il y a effectivement du blues, du rockabilly, je vois, il y a Stax, Tamla Motown, du surf. Effectivement, CBGB, mais on a le Caverne de Liverpool, on a...
Mais oui, c'est marrant, ça renvoie aussi à des lieux un peu mythiques, quoi. La caverne, le CBGB.
En fait, leur idée, c'est quand ils m'ont commandé ces illustrations-là, et d'abord, c'était pour les 6 locaux de répétition. Et ils m'ont dit, on aimerait bien, plutôt, les locaux de répète, on connaît, on a fait un peu partout en France. Alors, tu as le numéro 1, le numéro 2, ou tu loues le jaune, le bleu, on pourrait faire mieux, etc. On peut faire un super truc. Et donc, on s'est dit, ils m'ont dit, voilà, on va faire des labels historiques. Donc Sun Records, où c'était un lieu, t'enregistrais et tu sortais ton disque. Et c'était un label, donc t'avais tout dans la même boîte, quoi. Pareil pour Stax, Tamla Motown, et voilà. Et puis donc j'aurais fait les 6 portes, et puis quand ils m'ont dit, bon, arrive, toute l'école monte maintenant, il y a 20 portes de plus à illustrer. Alors évidemment, il n'y avait pas 20, 26 lieux qui sont à la fois label, etc. Donc on va étendre à des grandes périodes. Ou des grands lieux de musique. Donc c'est pour ça qu'il y a Woodstock qui est évoqué, mais il fallait bien une page de blues, parce que c'est quand même fondateur de tous les accords du rock.
Tout à fait.
C'était évident qu'une page de surf, pour mes copains australiens, c'était important. Mais la caverne de Liverpool, Carnaby Street, évidemment, la grande période de la British Power anglais, du funk, Détroit, avec toute la scène. Et donc, moi, j'ai pensé école aussi. Je me suis dit, il faut que sur chaque porte, pour l'époque représentée, il faut que figurent les groupes ou les vedettes les plus célèbres du mouvement. C'est pour ça qu'à Funk, on a James Brown, George Clinton, Cool on the Vine, etc. etc. Mais et pour Détroit, on a Alice Cooper, on a les Amboy Deuce, les Stooges, voilà, enfin toute la scène locale du moment. Et ce qui fait que le gamin, quand s'il veut regarder un peu la porte dans laquelle il rentre prendre ses cours toutes les semaines, le gamin ou l'adulte d'ailleurs, parce que c'est ouvert à tous les âges, et il peut apprendre plein de choses sur
Inception.
Sur le mouvement.
Inception, c'est subtil.
C'est éducatif en même temps.
Ah ben, la transmission, c'est important, effectivement. Ce qu'on peut évoquer aussi, c'est peut-être l'objet livre en lui-même, parce que on a plein de surprises. Outre ces pages donc qui évoquent des portes, on a un poster, on a.
Il y a des cadeaux, il y a plein de cadeaux avec l'ouvrage.
C'est bonus,
parce que donc il a un format de presque de 33 tours,
ouais.
entre le 33 et le 25 cm. Et à la fin, effectivement, il y a un étui qui peut rappeler la pochette où on sortira un vinyle.
Mais
quand... pas musicien, j'ai pas mis de vinyle, mais on a mis.
J'ai cru au départ qu'il y avait un vinyle dedans et je m'étais dit, oh super, en plus il a fait une compile des morceaux qu'il adore. ou...
Ouais, mais ça aurait coûté cher. Alors après, on s'est dit, est-ce qu'on met des QR codes pour que les gens aillent écouter les morceaux, mais ça
serait. Ouais, ça se fait, mais c'est un peu triste, je trouve.
Ah oui, dans la presse, pourquoi pas, mais dans un beau livre, non.
Alors, on parle de... votre ouvrage, lorsqu'il est sorti, ça a donné lieu à une exposition. Et je me demandais naïvement, est-ce que cette exposition va être appelée à être reconstituée? Est-ce que vous avez pensé à essayer, je sais pas, la placer à Saint-Malo pour le festival de BD? J'en sais rien.
Alors, l'exposition, donc, elle était au Havre. Elle sera à la Maison de la BD à Blois.
Ah.
En même temps qu'une expo Chabouté. Alors, c'est pas pendant le festival de Blois, mais c'est au mois d'avril. On inaugure ça. Il y aura d'ailleurs un Havrais qui habite maintenant dans la région de la Loire qui va venir chanter, Marc Minelli.
D'accord.
Et on va se faire une belle soirée aussi d'inauguration. Ces expos devraient bouger aussi pour le festival du Lige de Perpignan, dont je parlais tout à l'heure.
Mmh.
Et une exposition, alors pas forcément l'exposition que j'ai préparée, mais sur ce livre-là, sera faite aussi pendant le festival du Cabaret Vert à Charleville-Mézières. Énorme festival.
Mmh.
Et donc à la médiathèque, il y aura une exposition de mon travail aussi.
Ah, excellent. Et est-ce que vous avez...
Donc ça fait pas mal de dates quand même.
Ah
ça
ouais.
Beaucoup de soucis de s'occuper des expos, sachant qu'évidemment je...
Faut superviser.
Non mais oui, il faut superviser, il faut préparer, il faut faire des paquets, il faut recevoir, il faut faire des livres, des prix d'assurance, etc.
Ouais, c'est ça,
mais
faut
moi,
assurer.
Je suis surtout sur une nouvelle bande dessinée, quoi. Je suis, tous les auteurs de BD sont exposés dans toutes les bonnes librairies de France, donc... s'exposer en plus comme un, je sais pas, un photographe ou un peintre, c'est presque un autre boulot, quoi.
Roger m'a encore une fois coupé la route, mais je reviendrai bien sur l'objet. Ça a été facile à obtenir ce bel objet avec votre maison d'édition?
Oui, dans le sens où ils l'ont voulu tout de suite.
D'accord. C'était presque eux qui vous l'ont proposé, quoi.
Dans le sens où ces gens viennent de l'édition et pas tellement du rock'n'roll, et donc du coup, ils n'avaient aucune idée de tout ce qui est dedans, quoi.
Ouais.
Et sur des jeunes générations, ma directrice de collection, c'est pas tellement les Who ou les L6, quoi, elle connaît rien de tout ça.
Mais au moins,
donc il a fallu leur expliquer ce qu'il fallait pas faire, quoi. C'est-à-dire mettre du gothique doré partout, enfin voilà, du gothique, du rock. Je dis non, pas pitié, non, c'est un truc roots, quoi. C'est de la vie. Et puis, enfin bon, voilà, il y a eu de la bagarre au niveau maquette au début, puis finalement c'est moi qui ai dit oh, ça va être comme ci, comme ça. Ils m'ont dit bon, de toute façon, Riff, c'est ton livre. Je veux que t'en sois heureux, donc on va suivre ce que tu nous dis. J'ai pas voulu mettre trop de commentaires parce que comme je vous disais, je peux raconter des histoires et des misères du rock presque à chaque image, mais en même temps c'est un livre d'images, voilà, c'est des visuels, c'est des affiches, ça part tout seul. Si on veut en savoir plus, on se débrouille, ou on fait comme vous, on passe un coup de fil.
Et le choix de votre couverture, parce que c'est toujours hyper important, une couverture. Et là, on retrouve un petit peu quand même le forban, le pirate, hein.
Oui, c'est quand même ce qui me fait connaître le plus au niveau du public, c'est mes livres, mes adaptations littéraires de romans maritimes. En même temps, je m'étais servi de ça parce que de toute façon, le look pirate, ça pourrait être.
On se refait pas.
Voilà, enfin, je veux dire, c'est assez lié aussi à une espèce de fantaisie du rock, voilà. Et ce dessin-là existait pour un livre, justement, pour le Festival du Livre de Perpignan, et il a été refait avec d'autres couleurs pour ce livre-là.
D'accord.
En fait, c'est ce que j'ai proposé en me disant, bon, bah, les gens peuvent identifier mon nom et mon travail autour des pirates. Mm. Ça peut les attirer sur le livre, parce que c'est pas évident de parler rock'n'roll à des gens au milieu de la BD, quoi. Donc voilà, donc j'ai essayé de combiner les deux. Mmh. Et puis voilà, c'est eux qui m'ont proposé par contre la typo, le fluo, enfin le fluo vert, là.
On le voit bien dans les rayons, hein, je peux vous dire. Je l'ai vu en librairie, il est très visible, le fluo vert, là, ça se voyait.
Et puis cette impression de brillance avec des sillons et tout ça, ça rappelle bien
le Dix. Ça parle, quoi. Ouais. Voilà, et alors, donc, une petite question d'ordre pratique. Moi, j'adore couvrir mes murs avec des tas de dessins, des tas d'affiches. J'ai une envie folle de découper des dessins de votre album. Je dis non, Lionel, tu fais pas ça, panache, tu fais pas ça. Et est-ce que il est prévu, est-ce que vous aviez envisagé, est-ce que c'est raisonnable ou réalisable, certains de vos visuels, certaines affiches particulièrement péchues, par exemple, je pense à celle des Ramones, que j'aimerais bien avoir, ben, par exemple, si on pouvait avoir des affiches comme ça sur la porte de la radio, par exemple, ça serait génial. Vous avez été imaginé ça ?
Je l'ai vendu avant ce livre-là, il y a des années, je me promenais avec des tirages que je vendais, des petits tirages copies.
On se connaissait pas encore.
Bah, pour une bouchée d'euros, mais voilà. Mais comment dire, évidemment, chaque fois que j'ai une expo avec ce matériel-là, les gens ils disent ah mais je veux cette image-là.
Ah bah ouais,
bah
oui.
Mais évidemment, mon bouquin, il y a 150 pages d'images. Donc
on peut pas en retirer 150.
Pas tout, non. Et puis, j'ai pas un suivi de merchandising derrière. Donc, malheureusement. Alors, un copain m'a dit, mais j'ai acheté un bouquin super, je sais plus, j'étais sur le cinéma ou je sais pas quoi, où c'est des pages à découper.
Ouais.
Enfin, il y a des petits pointillés, un peu comme pour les timbres. Hein.
Il y a eu plusieurs tentatives en BD comme ça, de ce genre de production.
Elle me dit, ah, tu aurais dû le sortir comme ça, ou en faire un comme ça, parce qu'il y a trop d'images que j'ai envie de mettre chez moi. Enfin, c'est la même réflexion que tu fais. Mais bon, le livre n'a pas été prévu pour être dépouillé.
Bah ouais. Non, mais j'attendrai de dépouiller le livre d'Erwan lorsqu'il dormira. Comme ça.
Destroy.
Vous savez, je vais mettre du papier épais.
La grande arnaque du rock'n'roll. Le temps passe, les amis. Moi, je terminerai bien en vous demandant vos projets, monsieur Riffray, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans vos têtes et sous votre plume.
Oui, alors je suis... Alors, en dehors de toutes les expos annoncées, je suis en train de préparer un nouveau livre qui sera pour 2025, qui est une adaptation littéraire de Eugène Sue, encore un roman de pirate, et ça s'appelle Kernot le pirate. Et c'est cruel, anticlérical, et donc il y a une espèce d'humour noir, et je me régale.
Super. En tout cas, on vous remercie parce que grâce à vous, on pourra dire après en ville, dans les dîners mondains, j'ai lu Eugène Sue. Merci, monsieur Riffray.
C'est moi qui vous remercie.